Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris Île-de-France. Le PSG qui respire beaucoup mieux depuis son exploit mercredi dernier face à Manchester City pour revenir sur ce match d'anthologie et pour se projeter également sur la suite. J'ai le plaisir d'accueillir, non pas deux, mais trois chroniqueurs. Stéphane Jeanne, supporter du PSG, salut Stéphane. Kevin Makassi, animateur du Max
Bonsoir,
Space.
Exactement. Ritz.
Bonsoir Kevin et Eric Pierre-Louis.
Bonsoir.
Journaliste sportif, casting 3 étoiles et menu copieux, on y va tout de suite. Retour tout d'abord sur ce PSG City, exploit d'un soir au match fondateur, décryptage d'un match qui, quoi qu'il arrive, restera dans les mémoires. Le PSG doit maintenant terminer le travail. PSG Stuttgart J-2, toutes les clés du match, les scénarios pour la qualif, force, faiblesse de l'adversaire et les interrogations compo, il y en aura toujours côté parisien. Et puis retour en image sur la première parisienne de Gvisha Kvaratskhelia. C'était samedi soir lors du match nul, un partout entre le PSG et Reims. Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisport Cop Paris. C'est parti. Bon, il faudra certainement patienter jusqu'à mercredi pour savoir quelle place accorder à ce PSG Manchester City, mais à J plus 5, 5 jours après cette folle soirée, difficile de ne pas y voir un déclic, un tournant peut-être dans la saison du PSG. Avant de rentrer dans le détail, je vais faire très simple, messieurs, si vous aviez une image à retenir de cette soirée. Kevin, toi qui étais au parc.
Ah ouais, moi j'en ai plein, mais je pense le deuxième but de Barcola, et tu sais, la joie de Doué,
ouais,
qui était avec les supporters, tu sais, où vraiment, tu sais, il insuffle, tu sais, une dynamique aux supporters, et en disant que ça y est, le match va être inversé. Et moi, j'ai vraiment cette image-là de Doué, tu sais, en train de célébrer après le but de Barcola.
Béric, toi qui étais dans le virage.
Ouais, une autre image de joie, c'est plus la communication, enfin, la joie des joueurs à la fin du match, la célébration, communion. La communion collective des joueurs devant le COP, et voilà, c'était. Symbolique, c'est le PSG renverse peu de matchs et là c'était vraiment historique.
Stéphane ?
Moi, le premier débordement déclic de Barco, quoi, sur le but de Dembélé.
Il fait sauter le bouchon.
Ah ouais, mais carrément. C'est ça. Parce que il m'a énervé toute la première mi-temps. Et là, je me suis dit, voilà, ça y est. Donc,
Première fois dans l'histoire que le PSG remporte un match de C1 après avoir été mené de 2 buts. Il faut forcément beaucoup de caractère pour réaliser ça. Et c'est ce qu'ont souligné les joueurs et la direction à l'issue du match. On les écoute et on en reparle juste après.
C'est fondamental parce que sans mentalité ce soir, c'est sûr qu'on va perdre.
Il y a des équipes qui baissent les mains. Nous, on n'a pas baissé les mains. On a dit qu'on a croit beaucoup que c'était possible de faire la remontada et c'est ça qu'on a fait.
On regarde aujourd'hui, on a identité d'une équipe. On a personnalité, on a caractère. On a maté 2-0, l'équipe battre jusqu'à le dernier moment.
J'ai enfin un collectif et non une addition d'individualité ce match-là.
Moi, c'est vraiment un match fondateur. Quand on voit l'état d'esprit, comme tu es mené 2-0 face à City, un des top européens, et là, tu arrives à retourner la situation avec un parc en folie. Pour moi, c'est vraiment un match fondateur. Et je trouve qu'on a vraiment vu cet esprit collectif de l'équipe. Malgré, tu vois, les changements qu'il y a eu, l'équipe n'a quasiment jamais bougé. Et puis, l'entraîne Dembélé aussi a beaucoup aidé, je pense. Mais tu vois, on a vraiment cette communion.
Malgré la jeunesse aussi, parfois le manque d'expérience, ouais, qu'on pointe un petit peu du doigt, ce match-là va au-delà de ça également.
Moi, je pense que l'histoire du projet de Luis Enrique, pour l'instant, je reste encore sceptique. C'est validé si mercredi, fait un résultat qui va au-delà du match de mercredi dernier. Là, je pense qu'on a vu des choses qui, effectivement, donnent raison à Luis Enrique,
mais il faut
absolument confirmer, quoi.
C'est la victoire aussi de sa méthode, de ses thèses, de son management à Luis Enrique, cette victoire-là.
Ah, c'est plus une victoire collective pour moi. C'est pas forcément le coach qui a. Enfin, oui, il a fait l'équipe, mais en même temps, on a vu sur le terrain que c'est vraiment une cohésion d'équipe. Renverser un match comme ça, on l'a rarement vu au Paris Saint-Germain. Pour moi, j'ai envie de tirer mon chapeau au collectif plutôt qu'à l'entraîneur.
Ouais, il y avait un état d'esprit, quand même.
Ouais, vraiment.
Tactiquement, il y a pas mal de petites choses qu'ont souligné, notamment les Citizens. Ouais. Pep Guardiola qui expliquait, et pourtant, ça fait débat, que ce faux numéro 9, cette présence au milieu de terrain côté parisien avait aussi fait la différence.
Ça, c'est vrai. Surtout du stade, on l'a vraiment vu. Lycorgine décrochait beaucoup. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de zone, tu sais, un attaquant qui était vraiment dans la surface. Et justement, vu que City était à 2, avec Kovacic et le deuxième, et De Bruyne, ils avaient toujours il y avait toujours ce surnombre côté parisien, milieu de terrain parisien. Ce qui fait qu'en fait, au premier temps, on n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions, mais par la possession, on a été beaucoup plus à l'aise.
On l'a maîtrisé.
Tu vois.
Est-ce qu'il faut relativiser quand même un petit peu la victoire? Désolé, je vais déchanter un petit peu parce qu'en face, on n'avait pas. Le grand Manchester City. On l'a vu au fil du match.
Oui et non, parce qu'en fait, je reviens à l'état d'esprit dont parlait Béric tout à l'heure, la validation de la tactique et du projet de Luis Enrique. On a réussi, malgré le niveau actuel de City, qui va quand même un peu mieux, hein, il regagne régulièrement en PL, je ne sais pas si c'est lié. C'est peut-être aussi la façon dont on a joué.
À étouffer, à fatiguer, à user cette équipe de City.
À ne pas lâcher le match, c'est-à-dire qu'à 2-0, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas eu d'inquiétude particulière. Non, je vous avoue.
J'étais très inquiet.
Hyper optimiste, le garçon.
Moi, je suis comme toi, optimiste, aussi à 100%. Et en fait, je pense que le premier but de Barcola, ça a vite lancé une dynamique à l'équipe.
Ouais, c'est ça.
Pas le temps de douter.
Je veux à tout prix qu'on parle de l'ambiance qu'il y avait également au Parc des Princes. Un petit mot quand même sur le MVP du match. Il y en a un qui s'impose, c'est João Neves. Ah, oui. Je vous laisse au choix. Barcola et Donnarumma qui, à mon sens, ont aussi marqué des points mercredi soir.
Alors, Donna, enfin, j'ai trouvé décisif. Il ne peut pas grand-chose sur les deux buts, en réalité. Ça se joue avant. Donc, plutôt content. D'habitude, je ne suis pas très tendre avec lui. Donc,
c'est important d'avoir un gardien qui est en Ligue des Champions et décisif.
Il ne peut que reconnaître, effectivement.
Dembélé. Un joueur Dembélé.
Ouais, Dembélé
son entrée, elle est percutante. Kangin qui sort, Dembélé qui rentre. La percussion qu'il a mis à l'équipe en deuxième temps, c'était phénoménal.
Pour ajouter aussi Désiré Doué qui n'a pas l'habitude de faire ce grand match et dans un grand bain, il était dans le grand bain d'entrée, puis il a quand même répondu présent et on n'a pas senti qu'il était inexpérimenté.
Donc personne pour João Neves. C'est tellement évident, João Neves.
En fait, tu vois, dans le pressing, il a forcément été impactant. Et même toi,
regarde sur le deuxième but, son pressing dans les 25
et
mètres.
Moi, ce qui reste, c'est son timing.
Ouais, c'est tout. C'est le charisme, timing. C'est le pressing, c'est les orientations. À 20 ans, c'est bluffant, João Neves.
Bluffant. Et puis, je trouve que toi, le transfert aussi, on n'en parle pas assez, mais quel génie de Campos d'avoir négocié quand même 60 millions à un jeune comme ça, prospect, c'est fort.
Ouais, ça marche mieux que d'autres.
Dernier aspect, on y vient, l'ambiance au Parc des Princes, le soutien des supporters, les meilleurs supporters du monde selon Luis Enrique. Je voulais que l'on regarde une petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Rio Ferdinand, après le coup de sifflet final, juste devant le virage Auteuil. Ça nous replonge un petit peu dans cette folle ambiance. Comme toi, on a vu Béric effectivement derrière Rio Ferdinand. Bon, il y a une petite pique également pour les Citizens. On a l'impression, Kevin, vous qui étiez au parc tous les deux, que tout était réuni mercredi.
Ah ouais. Moi, c'est vrai que je pense que le parc, c'est un endroit unique. Parce qu'on a beaucoup de ce débat par rapport au stade, mais moi, je trouve que quand le Parc des Princes est comme ça, tu sais, il met son costume de grandes soirées comme ça, il y a un truc qui se passe. Et franchement, quand nous étions au match. Mais c'était extraordinaire.
On était un peu pessimiste avant le match. On voyait le temps anglais, la pluie, un maillot un peu
bizarre. C'est un peu ce qui contribue à l'ambiance, finalement. Voilà, cette ambiance de pluie de tempête.
C'est dit que ça sentait un peu la poudre. Ouais,
le maillot, on a dit qu'on en parlait pas.
Et puis finalement, après, on est mené quand même 2-0 et on se dit, putain, la soirée va mal finir. Et au final, on revient coup sur coup et franchement, soirée magnifique.
Le parc, les supporters n'ont jamais lâché. Le président Nasser Al-Relaifi parle de la meilleure ambiance qu'il a pu connaître depuis qu'il est président. Stéphane, est-ce que ça fait partie des plus grands frissons européens de l'RQSI ?
Alors, je ne sais pas si c'est le plus grand frisson parce qu'on est à un moment de la compétition où ce frisson-là, finalement, il est
difficile. Mais il y a le scénario, là. Non, alors. Il y a l'obligation de résultat.
Alors, pour moi, pas frisson. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé de spécial mercredi. Tu vois, à 2-0, on peut se dire qu'à un moment, le parc pourrait s'éteindre, ça pourrait siffler. Enfin voilà, il aurait pu se passer plein de choses de cette nature-là.
Reviens à la question de départ. Match fondateur ou exploit d'un soir ?
Pour moi, ça doit être un match fondateur. Ouais. Mais j'attends mercredi.
Ça doit ou ça l'est ?
Non, pour moi, c'est un match fondateur. Je pense qu'en fait, l'état d'esprit va insuffler sur la saison.
J'attends mercredi.
Bah, mercredi, je pense que justement, on va confirmer, je pense, à Stuttgart, à mon avis. Moi.
Vous le placez où, juste pour terminer cette première partie, ce PSG City, justement, au regard des autres grands matchs européens ? RQSI.
Pour moi, c'est juste derrière le PSG-Barça du 14 février 2016 ou 2017.
Alors ça, c'est un débat.
Le 4-0.
Parce que la suite, on n'a pas très envie d'en parler.
Mais c'est vrai. En fait, moi, je pense à deux matchs. Je pense au match Paris-Liverpool, le 2-1, avec Neymar et Bernat. Ouais. Et le 4-0 aussi, comme a dit Béric. Mais c'est dur de le placer sur le
site. Moi, j'ai un PSG-Chelsea.
Lequel ?
Le 2 partout avec Silva et David Luiz.
Je parlais au parc, moi.
Moi, je trouve qu'au parc, il a pas loin d'avoir raison, le président. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu énormément, à part le PSG-Barça, mais là,
Mais le Liverpool, c'est incroyable, le PSG-Liverpool.
C'est un match de poule.
Oui, mais là, c'est pareil.
Oui, mais...
Comme on parle de
l'ambiance, ça peut être celui-là.
Petite coupure pub, les amis. On va revenir justement pour parler de la suite. Comme l'a dit Stéphane, il faut terminer le travail. C'est dans 2 jours. À Stuttgart.
Obligé.
De retour dans Cop Paris avec mes trois chroniqueurs du soir, Kevin Makassi, Béric Pierre-Louis, Stéphane Jeanne. C'était quasiment inespéré il y a une semaine, on vient d'en parler, mais le PSG a donc repris son destin en main avant la 8e et dernière journée de Ligue des Champions. Le PSG, on va voir les cas de figure, les scénarios, se qualifiera s'il s'impose mercredi à Stuttgart, s'il fait match nul mercredi à Stuttgart, et ça peut même passer en cas de défaite. Dans ce cas-là, il faudra surveiller 5 autres matchs. Je ne vous donne pas tous les cas de figure, messieurs, ça nous prendrait toute la nuit. Ça promet quand même juste un aspect très, très basique, très pragmatique, une drôle de soirée avec un multiplex à combien on s'est dit 18 matchs.
18 matchs.
Vous faites quoi mercredi? Vous regardez le PSG ou vous regardez le multiplex?
Non, non, PSG. Je rigole, ou on regarde le PSG?
Bah, je vais être à Stuttgart, donc ça va être.
Parce que les résultats des autres matchs vont aussi dire.
Mais j'ai envie de me concentrer sur la team.
Bah oui.
Même si le PSG prend un but et mené, on switch.
J'irai pas voir rien.
Non, non, moi c'est PSG à 100%.
J'aurai la chance d'être à Stuttgart, donc ça va être. J'aurai pas le choix de. J'aurai pas le choix de regarder Stuttgart PSG.
Dans une grosse ambiance, on en parlera avec 60 000 supporters. L'autre enjeu du soir, alors au-delà de la qualif, ça va pas te plaire, je pense, parce que je vais me projeter un tout petit peu sur les barrages. Faut un petit peu rappeler les règles de cette nouvelle formule. On peut rappeler qu'en regardant le classement aujourd'hui, le PSG, on peut le regarder 22e, jouera soit le 11e Feyenoord, soit le 12e le LOSC. Mais tout peut et va bouger d'ici mercredi. Ce qui veut dire qu'en cas de qualif, le PSG peut prendre un autre club français, Lille, Brest, Monaco, mais aussi un Cador du type Bayern, Real ou Juve. Déjà, il faut aller en barrage. Peu importe l'adversaire, vous avez une préférence pour le tour
Non, moi, franchement, j'ai pas de préférence. Après, s'il y a Real PSG, pourquoi
non,
pas
non, 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 non.
Déjà, pourquoi pas tu veux. Je lance les hostilités, les amis, si vous le regardez.
Kylian Mbappé.
Oui, non, je veux ces retrouvailles-là.
Juve, pas les anciens.
Je préfère tirer Ethan Mbappé et prendre le LOSC.
Non, moi, tout ce que je veux, en fait, c'est qu'on soit. Si on peut être dans les 16. Faut qu'on reçoive au retour.
Ouais, ça, ça c'est primordial.
9-16, tu reçois au match, reçois au match retour. C'est encore possible, hein, selon
C'est plutôt ça que je regarde.
Juste rapidement, vous en pensez quoi de cette nouvelle formule?
Moi, j'aime bien.
Franchement,
tu vas voir mercredi soir aussi avec ce grand multiplex.
En fait, tout est possible en peu de temps, finalement. Tu vois, on ne savait pas si c'était 10 points, 11 points qu'il fallait pour se qualifier.
Ouais,
on se rend compte que finalement, on n'est pas loin de ça. Mais que du coup, tout peut se passer en un match.
On vibre à chaque journée. Pas une journée, on s'ennuie.
Mais moi franchement, j'aime beaucoup. En vrai, on en avait parlé au tout début, je crois, au mois d'août, du format. Et moi, je kiffe, les gars.
Moi, j'avais validé d'entrée. Hein,
moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en fait, il y a toujours des matchs intéressants. Et comme tu dis, il y a toujours ce suspense.
Il y aura ces barrages, tirage au sort vendredi prochain pour des barrages aller-retour prévus mi-février. Et puis ensuite, ça reprendra le fil classique d'une élimination directe. Avant de se projeter sur les barrages, il va falloir effectivement ramener un résultat de Stuttgart. On va revoir quelques images du match ce week-end des coéquipiers d'Enzo Millo. Il était suspendu sur la pelouse de Mayence, défaite 2-0 avec un gros turnover. Première défaite seulement en 2025 pour une équipe 4e de Bundes et 24e en Ligue des Champions, ce qui veut dire que les Allemands joueront aussi, messieurs, leur avenir européen. Elle vous inspire quoi, cette équipe de Stuttgart?
Franchement, c'est une équipe qui est assez offensive. Ils ont un bon coach, Sébastien Hoeneß. Ils ont des bons joueurs aussi, hein, comme tu l'as dit, Enzo Millo. Il y a aussi Angelo Stiller, comme milieu de terrain qui est intéressant.
Demirovic.
Il y a Demirovic, je crois qu'il est à 8 buts.
C'est un peu comme au Paris Saint-Germain. On a pas mal de joueurs qui marquent beaucoup. Sirou Guirassy est parti cet été. Il n'y a pas un serial buteur. Enfin, si Ousmane Dembélé.
Non, en fait, c'est 4 fois 10. C'est comme pour nous. Ça tourne pas mal. Et puis, surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont une défense qui n'est pas très rapide.
Anthony Rowe,
et ça peut. Et comme c'est une équipe qui joue.
Suspendu.
Ils ont, c'est une équipe qui doit chercher un résultat.
Ils ont Nobel dans les buts, donc si c'est le Nobel de Monaco, il n'y a plus qu'à frapper pour.
C'est vrai.
Il y aura des brèches effectivement à exploiter derrière. Est-ce que l'on peut dire, bien évidemment sans faire injure à une équipe qui a quand même été vice-championne de Bundesliga devant le Bayern l'an dernier, que le PSG sera peut-être son principal adversaire mercredi? Après avoir fait ce que les Parisiens ont fait au Parc contre Manchester City mercredi dernier, inimaginable de passer à travers mercredi.
Je reviens sur ma validation, Kevin. Donc du coup, mercredi, on valide parce qu'on ne peut pas faire un autre match que celui d'une équipe qui a envie de se qualifier, quoi. Et surtout qu'on va jouer Stuttgart qui n'a pas d'autre choix que de au moins faire match nul. On doit profiter en fait de. Alors, on sait que Luis Enrique n'est pas forcément le coach qui voudra qu'on n'ait pas le ballon et qu'on parte en contre-attaque. Mais je pense qu'on aura des.
Sachant, on en débattait pendant la pub, c'est vrai qu'un match nul devrait même qualifier les deux équipes.
Il ne faut pas aller chercher le match nul. Faut éviter.
Moi, il faut une victoire. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, si tu as le même scénario face à Dortmund l'année dernière. Là, je suis désolé, les gars.
Oui, sur les 10 dernières minutes.
On va favoriser le match nul.
On se souvient de l'agacement.
Pour la qualif.
Toi qui seras à Stuttgart, tu t'attends à quoi? 60 000 places quand même.
Ouais, c'est un gros stade.
On s'attend un peu au match piège, à vivre l'enfer, etc. On
nous sur le l'ambiance, tu t'as renseigné sur ce qui se passe là-bas, la ferveur.
Pas vraiment, après on connaît les stades allemands, c'est des stades chauffés à blanc, du peu mignon.
c'est vrai.
Mais bon, on sait qu'on est, on sera attendu, mais le PSG répondra présent. Il n'y a pas à chercher le match nul, il faut gagner là-bas tout simplement et arrêter de faire des comptes.
Alors, avec quelle équipe, quel 11 titulaire côté parisien pour aller valider cette qualif? Une certitude, il va déjà falloir trouver un remplaçant à Nuno Mendes qui sera suspendu. Première question simple, Lucas Hernandez, c'est la logique?
Ouais, pour moi, c'est toujours logique, les amis. Hein. Parce que si tu parles avec Berardo.
Il vous a suffisamment rassuré depuis son retour de blessure, Lucas Hernandez, mais
pas encore.
Ouais, pas encore.
Pas beaucoup de minutes et puis fébrile sur.
Titularisation, mais pas dans les gros matchs.
Ouais, mais c'est le seul expérimenté à ce poste en fait. C'est donc t'as pas trop le choix.
Je pense que si on veut le revoir en forme, c'est mercredi.
Hein. Ouais, je pense.
Il y a pas d'autres alternatives parce que moi je peux vous en donner.
Bah oui, j'en ai parlé.
João Neves a déjà joué latéral gauche. Zaire Emery également.
Non. On t'en ressemble trop à Luis Enrique là.
Je cherche les dingueries de la compo.
Non, moi personnellement, je pense qu'il là, il va être pragmatique.
Ouais.
Lucas Hernandez, à mon avis.
Oui. Il y a la dimension comme disait effectivement expérience. C'est l'un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire.
Exactement. Et puis, il a joué, tu vois, samedi 90 minutes, il me semble. Non, 70 minutes. Ouais. 70 minutes. Donc non, je pense qu'il sera pour mercredi. Hein.
Ouais. Le reste de la composition, alors on vient de la voir, on peut la reprendre. Je l'ai nommé la compo peu probable du PSG à Stuttgart parce qu'on sait qu'il y aura forcément une ou deux surprises dans ce 11 titulaire. Je vous la donne, là, je vous vois regarder de loin. Donc la défense avec Lucas Hernandez, trio Neves, Vitinha, Zaïre Emery et une attaque Barcola, Dembélé, Désiré Doué. Ça, je pense que selon toute logique, c'est la compo, ouais. Sauf que mercredi dernier, vers 19h45, l'a vu Kangin Lee et Fabian Ruiz dans le 11 de départ.
Il y a toujours Kangin Lee.
Et Fabian Ruiz.
C'est les chouchous.
Il est toujours là. Il était encore là même samedi à un autre poste. Mais
après, je pense que pour Fabian Ruiz, je pense qu'il a vu qu'il privilégie la possession. Mm-hmm. Il s'est dit, bon, Fabian Ruiz, vu que c'est un joueur qui est bon dans la possession, il s'est dit, bon, je vais le mettre. Qui est bon dans la possession. T'es pas d'accord avec moi ?
Non.
Bon, dans la possession, il est bon dans la possession.
Il n'y a pas énormément
peut-être
de.
Quand il faut un jeu, tu sais, quand il faut partir peut-être en transition.
Il y a un Fabien Ruiz sur le plateau de Cop Paris.
Mais... Désolé,
Fabien Ruiz de l'Espagne.
Il a fait un bon match, Conti, je suis désolé. Correct. Dans la possession.
Est-ce que vous pensez qu'avec la compo que l'on vient de voir, je vous la redonne pas, mais qu'elle est selon toute vraisemblance la plus logique, on peut enfin. Je crois que depuis le début de saison, sur les gros matchs, on s'amuse toujours à faire la compo probable, avec les informations également de nos confrères des RMC Sport. Est-ce qu'on peut faire un perfect pour une fois, avec cette compo-là? La ligne d'attaque, notamment, Doué, Barcola, Dembélé, on part avec ça?
Moi, je pars sur ça, moi.
Moi, je vais être pragmatique, comme tu l'as dit. Enfin, faut que Louis soit pragmatique. Nous, on l'est. Mais je suis sûr qu'il y aura Kangin Lee. Oui.
Moi, je sens le Ramos.
Enfant numéro 9 ?
Le Ramos, grosse cote. Très grosse cote.
Ramos, qui vient sortir d'un match moyen face à Reims.
Pour moi, c'est le plus à droite dans le but, hein, dans cet effectif-là. Donc pourquoi pas le tenter, un match où t'as pas beaucoup.
Bon, en fait, j'ai peur qu'il n'ait pas convaincu samedi, tu vois.
Mais je pense qu'il n'est pas forcément privilégié dans les gros matchs.
Je pense que comme il a joué samedi, il ne débutera pas.
Ouais, moi aussi, j'ai bien peur.
On verra.
Quelle sera la. Ou les surprises. Toi, tu me dis qu'il n'y en a pas, mais moi, je sais qu'il y en aura une.
Mais si, moi, je t'ai dit, ma surprise, c'est Kangin Lee.
Kangin Lee, oui.
Dans un des trois.
Vas-y, moi, si je dois dire une surprise, je pense que Fabien Ruiz, hein, à la place de Vitinha.
Ouais. La place de Vitinha, c'est dur.
Bah, la surprise, ce sera Ramos.
Oui, Ramos.
Ramos, il a.
On tente aussi, mais des fois, on se trompe sur le plateau. Le résultat du sondage, on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si le PSG allait se qualifier pour les barrages à l'issue de ce Stuttgart PSG. Et bah, c'est le résultat inverse de la semaine passée avant le match contre City. Optimisme partagé par la communauté Cop Paris qui voit à 75% quasiment une qualif du PSG. Mercredi soir, messieurs, optimiste.
Yes.
Oui, ça passe avec quel résultat?
Moi, très optimiste et je vois bien une victoire 2-1 du PSG.
Méric, toi qui es là-bas, 3-1. Et Stéphane, passe avec?
Copieur.
3-1. Petite coupure pub, messieurs, et on va se retrouver dans quelques instants pour revenir maintenant sur la Ligue 1, le match PSG-Reims, marqué par les grands débuts d'un certain Vishak Varadskhela. Vous restez avec nous, à tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes trois chroniqueurs du soir, Béric, Pierre-Louis, Stéphane Jeanne et Kevin Makassi. Messieurs, on va revenir au pas quotidien, à notre bonne vieille Ligue 1, ou même en faisant match nul, le PSG accroît son avance sur le Dauphin, l'Olympique de Marseille. 10 points d'avance sur l'OM.
Merci
après le match nul samedi soir au Parc des Princes face à Reims. On va revoir les deux buts de cette rencontre avec la passe décisive. On leur parlera de Vishak Varadskhela pour notre serial buteur.
Magnifique.
Ousmane Dembélé, 8e but quand même, messieurs, sur les 7 derniers matchs.
Fort.
pour Dembélé, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Le Stade de Reims va égaliser à l'issue d'un très joli mouvement collectif. Ouais, Nakamura qui offre le point du match nul au Rémois, score final un but partout comme au match aller face à Reims. Les enseignements hors Kvaratskhelia d'un tel match tellement particulier parce que coincé entre deux grosses échéances.
Bah franchement, aucun, sinon qu'il n'y a pas de blessés, qu'on a joué un peu sans prendre trop de risques pour mercredi. Vraiment pas grand-chose à dire pour ma part, en tout cas.
Eric.
Ouais, pas grand-chose à dire. Après, voilà, il y a deux grosses échéances. Il y en a une avant, une après. Donc forcément, tu prends pas de risques, tu fais tourner. Et, voilà, t'attends. Et, voilà, rien à dire de spécial.
Grosse rotation, parce que Marquinhos, Hakimi n'était même pas sur la feuille. Pas de blessés, comme le disait Stéphane.
Bernardo aussi qui a joué.
Et puis finalement, match nul, le PSG reste invaincu, c'est pas...
Ouais, après, bon, moi j'étais au match aussi, franchement, on a senti que, tu vois, les joueurs étaient aussi un peu fatigués, j'ai trouvé. Tu sais, avec la débauche d'énergie qu'ils ont eu mercredi, je pense qu'ils ont comme, tu vois, voulu un peu privilégier aussi le match de mercredi face à
Stuttgart. Déjà la tête à Stuttgart.
Ouais, exactement, donc ils se sont dit, bon, on va marquer au début, et puis après on verra après le scénario du match.
C'était un faux turnover, parce que finalement on a retrouvé les mêmes joueurs que mercredi.
En fin de match.
Pas forcément au même poste, mais tu vois, enfin voilà.
Oui, toi, tu parles de Doué.
Ouais, Doué.
Il y a plus de joueurs relayeurs aussi,
tu vois.
Le PSG quand même qui reste invaincu, je le disais, bon, classement qui prend un point de plus sur l'Olympique de Marseille, 10 points pour le titre de champion de France, honnêtement on va pas créer de faux suspense. Moi ce qui m'intéresse c'est la saison des Invincibles, ça a jamais été fait en Ligue 1. Est-ce que c'est possible pour le Paris Saint-Germain?
Bah c'est possible, surtout qu'il y a moins de matchs maintenant qu'avant.
Ouais, c'est vrai,
4 journées en moins, donc pourquoi pas, hein. Après on va aller chercher des records et
faut aller chercher.
Franchement oui,
ouais.
On commence, enfin il y a vraiment une diff, hein. Et même quand on est en difficulté, tu l'as dit, on arrive à ne pas perdre. Ce serait une mauvaise surprise si on n'y arrive pas.
Alors, il reste juste au calendrier 15 matchs à jouer et les gros matchs, Monaco, Lyon, Lille, Marseille et Nice, mais que le PSG a quasiment tous remporté sur la phase aller.
Exactement, et puis moi j'ai regardé aussi le calendrier, c'est qu'on va beaucoup recevoir.
Ouais.
Parce qu'en fait, on s'est beaucoup déplacé pendant la phase aller.
Alors que là,
alors que là, pour la phase retour, on va recevoir Monaco, Marseille et on va se déplacer à Lyon.
Bon, on prend le pari.
Ouais, moi je prends le pari.
Et historique, hein, la saison des Invincibles pour le
Paris. Moi je pense qu'on va la faire. Hein.
Bon, ça dépendra aussi certainement beaucoup du parcours en Coupe d'Europe.
Hein, ça, c'est vrai aussi,
S'il faut lâcher un petit peu de l'Est en Coupe d'Europe.
Ouais, je suis d'accord.
Avec une concurrence donc accrue. Du côté du Paris Saint-Germain, PSG Reims, ce sont surtout les débuts de Kvaratskhelia sous les couleurs parisiennes. On a parfois des bonnes surprises avec Luis Enrique, on ne s'attendait pas. Je sais pas, toi, Kevin, qui était au parc, est-ce que tu t'attendais à le voir titulaire?
Non, franchement, non. Moi, je pensais qu'il allait jouer 30 minutes. Et après, tu sais, en gros, il allait recevoir ce nouveau. Et là, quand j'ai vu la compo titulaire d'hier, je me suis dit, oh, ben c'est génial.
Et tout le monde était quand même relativement satisfait d'avoir cette petite étincelle sur le PSG Reims, la titularisation de Kvaratskhelia, la première de Gvisha avec le PSG. C'est Fanny Cousin qui vous raconte sa soirée.
Le public du Parc des Princes l'attendait et était prêt à s'enflammer pour son nouveau joueur. Et pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Gvisha Kvaratskhelia a déjà montré ce qu'il pouvait apporter. D'abord en rodage en première période et auteur de nombreux ballons perdus, le Géorgien a finalement su faire la différence au retour des vestiaires en servant idéalement Ousmane Dembélé sur le but parisien.
Je suis vraiment content et fier d'avoir fait une passe décisive à ce moment-là. Je suis juste un peu déçu parce qu'on aurait dû gagner, c'était mes débuts ici. Mais on va travailler plus dur et ça va arriver.
Aligné sur le côté gauche pour animer l'attaque parisienne, Kvara a en tout touché 69 ballons. Ses qualités de dribbleur ne sont pas non plus passées inaperçues. Et s'il n'a pas toujours été en réussite dans ses tentatives, l'ancien Napolitain s'est quand même procuré deux occasions franches avant d'être replacé dans l'axe après la sortie de Gonçalo Ramos.
Il a disputé la première mi-temps après seulement 4 entraînements avec sa nouvelle équipe. Bien sûr que c'est difficile, mais il a bien joué. Quand il touche le ballon, on sent qu'il a quelque chose de spécial. Il a bien débuté, il s'est bien associé avec les autres. On sait bien qu'il lui manque encore du rythme.
83 premières minutes prometteuses, donc d'autant qu'il le dit lui-même, il n'est pas encore à 100%.
Oui, il faudra certainement un petit peu de temps pour retrouver le grand Kvara. Il n'avait plus joué depuis le 29 décembre avec le Napoli. Votre avis, messieurs, sur cette première?
Moi, je trouve que c'est de bon augure. On ne peut pas lui en demander plus sur ce premier match. Voilà, le gars arrive, il ne connaît pas encore l'équipe. Ça va se mettre en place. Mais je trouve, par contre, que sur le but, il nous a montré son potentiel.
Kevin, toi qui étais au parc, tu as vécu la présentation qui a été assez sobre.
C'était court, 30 secondes.
On sent quand même une véritable attente.
Ouais, tu sais, quand il arrive, il monte ce maillot, tu sais, devant la tribune, Auteuil, et là, t'entends Vicha. Et après, t'as le public qui se compte son nom.
Et quoi son nom déjà?
Varajvelia.
Varajvelia.
Et puis, tu vois, même au niveau de son toucher de balle, tu l'as dit, il est différent des autres.
Ouais.
Sauf qu'il a cette qualité technique, tu sais, qu'il peut apporter à l'équipe. Par contre, c'est juste un seul bémol, mais je pense que ça, il va le travailler. Tu vois, c'est les automatismes. Qu'il ait ses coéquipiers. Mais bon, ça, c'est pas un match. Non, mais je suis d'accord.
Ronaldo derrière lui.
Ouais, voilà.
Ça aurait été Nuno Mendes, c'était pareil. Il y a 4 séances d'entraînement.
Ouais, c'est ça. 4 séances d'entraînement, c'est compliqué de prendre tout de suite ses marques avec l'équipe.
Kevin vient de le dire, et Luis Enrique, on l'a entendu dans le sujet de Fanny, un joueur différent. Il a quoi de différent que Varadkala?
Bah, il est élégant. Ouais. On sent au toucher de balle, la posture, la façon de se déplacer. Ça nous rappelle, on disait tout à l'heure en antenne, un Kaka, un Pastore. C'est une classe, quoi. C'est la grande classe.
Belle référence. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'élégant, de différent chez Varadkala.
C'est sweetie, en fait, les gars, vous voyez. Et ça, ouais, c'est beau.
Ça coule.
Pas d'autre mot.
Il va où il peut, où il doit. On le prend aussi pour ça. 70 millions d'euros, c'est quand même un investissement. Faire franchir un cap à cette équipe-là.
Bah oui, on l'a pris pour ça.
Ouais.
On l'a pris justement pour que le PSG franchisse un cap. Tu vois, je pense que si on se qualifie pour les barrages, il aura son rôle à jouer. C'est sûr. Je pense qu'il sera titulaire et à mon avis, il aura peut-être cette concurrence avec Barcola.
Oui, on l'a pas dit, mais absent, c'est vrai mercredi parce qu'il n'est pas qualifié. Il reviendra pour d'éventuels barrages. Il amène aussi de la concurrence et ça, c'est pas anodin dans l'esprit de Luis Enrique.
Bah, je pense que c'est bien pour Barcola, par exemple, qui ça va le sortir un peu de. Je pense qu'il est dans une espèce de zone de confort là où finalement il y a une concurrence avec Doué, mais peut-être pas suffisante. Vara, il a vraiment le potentiel du titulaire au poste là.
C'est qui a le plus de soucis à se faire sur ce, justement, le partage du temps de jeu? Parce que forcément, Kvaratskhelia va prendre beaucoup de minutes. Tu parlais de Barcola, il y a Doué également. Moi, je pense à Gonçalo Ramos. Parce qu'on l'a vu, il termine dans l'axe, hein, le match, Kvaratskhelia.
Ouais, c'est vrai, mais pour moi, c'est plus Désiré Doué qui va en pâtir de l'arrivée. Ouais, dans la rotation, c'est plus Barcola qui.
C'est plus Ramos, hein. Il a raison.
Plus Ramos?
Ouais, parce que justement, en conférence de presse, il en a parlé. Et il disait justement que Kvaratskhelia pourrait jouer faux numéro 9. Et moi, je pense qu'il lui mettra beaucoup de faux numéro 9, à mon avis.
L'avantage de Doué, c'est qu'il peut aussi reculer d'un cran et jouer.
Oui, aussi, au relayeur.
Doué est plus polyvalent, en fait. Oui. Il peut effectivement descendre d'un cran, droite ou gauche.
Bah, là où, où Barcola peut jouer aux trois postes, là où Kvaratskhelia, potentiellement ambidextre, peut jouer aux trois postes, Ramos n'en a qu'un.
Ouais, c'est exactement.
Et effectivement, je rejoins Julien et Kevin. Ramos est plus en danger. Alors déjà, on a entendu ce qu'a dit Luis Enrique mercredi. Et puis le match qu'il fait, alors samedi, même si le match de samedi, on peut pas tirer vraiment beaucoup d'enseignements. Je pense qu'effectivement, il est plus en danger que les autres.
On y va sur Gonçalo Ramos. Donc alors, semaine contrastée, hein, finalement, remplaçant face à Manchester City, il rentre. Il marque, et puis titulaire avec des occasions ratées contre Reims. La question, finalement, elle est toute simple, elle vient d'elle-même. Est-ce que son meilleur rôle, c'est pas celui de remplaçant de Super Sub, Béric?
Pour moi, ça reste quand même le joueur le plus à droite devant le but de l'équipe. Donc j'ai du mal à me dire que ce mec-là, on peut pas se priver d'un attaquant dans cet effectif-là. Donc ce serait très dur pour moi de le voir sur le banc.
Après, souvenez-vous, on avait dit que son retour réglerait notre
efficacité. Oui, c'est vrai.
Ça a été un débat long de quasiment
et que finalement, c'est pas lui qui est en train de régler ce problème d'efficacité.
C'est Dembélé.
C'est Dembélé et ceux qui étaient déjà là. Mais peut-être que sa présence... créer aussi cette possibilité.
C'est vrai que tout le monde l'imaginait comme un titulaire en puissance. C'était peut-être un petit peu vite oublié que l'an dernier, Luis Enrique l'utilisait déjà un petit peu dans ce registre-là, certes avec Mbappé sur le terrain. Je reprends juste les stats. 4 des 6 buts inscrits cette saison en sortie de banc. Et puis on voit que sur les gros matchs, Luis Enrique lui préfère un joueur hybride, associatif.
Il est passé présent. Contre l'Atlético, je crois qu'il ne joue pas. City, il rentre en jeu.
Juste avant ça, regardez le but qu'il met mercredi quand même, franchement.
Moi je pense qu'il a perdu du crédit, les amis. Je suis désolé, mais moi je pense qu'il a perdu beaucoup de crédit.
À cause de sa blessure ?
C'est pas ça, mais c'est même en Ligue 1, il n'arrive pas à confirmer les matchs. En Ligue 1, il est moyen.
Mais en fait, je pense
en Ligue 1, même contre Espaly, il n'a pas été bon.
On oublie que la façon de jouer du PSG ne favorise pas les numéros 9.
Je suis d'accord avec toi.
Donc je pense que c'est aussi une cause à effet, quoi. Il ne peut pas bien jouer dans un système où on ne favorise pas un 9.
Alors, il y a eu cette petite phrase. Effectivement, cette semaine dernière, tu y faisais référence. Elle n'est pas passée inaperçue, notamment dans l'entourage de Gonçalo Ramos. Luis Enrique, interrogé sur l'utilisation du numéro 9 au PSG. Question à laquelle le coach espagnol ironise en expliquant qu'à City, l'avant-centre s'appelle Allende. Et qu'en fait, c'est pas de la même trempe que Gonçalo Ramos. Vous le comprenez comme ça, ce message-là? Comment vous l'interprétez, ce message de Luis Enrique?
Je trouve ça... Après, c'est du Luis Enrique. Alors, tu le vois en conférence de presse, donc tu pourras nous dire un peu plus ce qu'il veut dire par là. Mais C'est du Luis Enrique, donc c'est maladroit. Ouais. Et en même
Est-ce
temps,
qu'il y a une intention derrière ou c'est juste maladroit?
Pour moi, il veut envoyer aussi un message, c'est-à-dire que j'ai pas un œuf qui est au niveau, moi, j'ai pas le neuf qui vaut. Je veux.
Pour moi, c'est un pic. Ça me fait penser un peu à la déclaration de Mourinho sur Benzema il y a quelques années, où il comparait voilà, un chat. Et au final, on a vu la carrière de Benzema, ça l'a galvanisé. Il pensait à cette phrase répétée dans sa tête et ça l'a permis d'atteindre les sommets. Je pense que psychologiquement, Ramos, ça peut que lui faire du bien.
Toi qui insistes aux conférences de presse de Luis Enrique, décrypte-nous le Lucho.
Non, en fait, je pense qu'il a voulu le piquer, comme a dit Béric. Et je pense qu'en fait, il n'a pas forcément été maladroit. Mais tu vois, il a voulu mettre une sorte de, tu vas dire, de petit pic. Mm-hmm. En mode, voilà, mon garçon, faut que tu te réveilles un peu parce que, voilà, moi, je mets des faux numéro 9. Il y a une campagne aussi, tu sais, en disant, oui, voilà, il faut un numéro 9 au PSG. Et il l'a mis justement dans les grands matchs, il a essayé. Au final, ça n'a pas du tout marché. Donc, je pense qu'il voulait lui faire comprendre que faut que tu te ressaisisses, faut que tu montes plus.
C'est positif. Il y a eu une hype Gonçalo Ramos pendant qu'il était blessé, et là c'est étrange.
C'est parce qu'il n'était pas là en fait. Donc.
Voilà, c'est ça.
j'avoue, ça c'est un peu. C'est redescendu.
C'est compliqué à analyser tout ce qui se passe autour de Ramos. Juste pour terminer, il a toujours un avenir selon vous. Regarde l'arrivée de Kvaratskhelia qui va lui prendre du temps de jeu.
Et je reviens sur ce que vous disiez, toi et Kevin, tout à l'heure. Je pense que son avenir est de plus en plus compliqué au PSG. Mm-hmm.
Moi, je pense que le PSG va se poser sur un numéro 9 pour l'été prochain.
Il reste quelques jours.
Pour l'été prochain, je te parle.
Oui, mais bon, il nous reste 4-5 mois.
Mais pour la saison, je pense qu'il va continuer, à l'essayer, il va le mettre. Mais je pense que l'été prochain, malheureusement, son crédit va.
Super sub.
Vous n'êtes pas en train de me vendre un avenir à la Randal Kolo Muani, où peu à peu, on disparaît, on a plus de temps de jeu. Oui, mon garçon, je te fais énormément confiance, mais tu joues jamais.
Ah, c'est possible.
Écoute, j'espère pas pour lui. J'ai pas l'impression parce qu'il est quand même encore dans les plans. Il rentre, il joue quelques minutes. Donc je pense pas qu'on va aller jusque là. Mais je pense quand même que son poste est mis en danger par l'arrivée de Guevara.
Eric.
Mis en danger, oui, mais après, on ne souhaite pas, bien sûr, de finir comme Randal Kolo Muani. Moi, je vois du potentiel dans ce garçon. Je pense que voilà, il a été piqué par le coach.
Oui, encore
une fois, on n'a pas. Et puis, il y a ce concept d'ultra concurrence. Alors, pas polyvalence pour lui, ça c'est vrai, c'est peut-être le désavantage de Gonçalo Ramos. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière avec l'arrivée de Kvaratskhelia. On a une attaque où tous les postes sont doublés.
Oui, exactement. Et puis là, c'est vrai que là, Luis Enrique, il a quand même un large choix. Mais bon, après, Ramos. Comme tu l'as dit, c'est vraiment le seul numéro 9 et c'est vraiment le joueur qui amène cette présence dans la surface. Voilà. Quand tu regardes les fois numéro 9, malheureusement, il n'y a pas cette présence dans la surface. Des fois, on veut centrer,
c'est un profil,
mais il n'y a personne.
Terminer, c'est un profil classique, mais atypique dans l'esprit de Luis Enrique.
Oui. Moi, je suis convaincu que ça ne rentre pas dans ses plans de jeu.
Moi, je ne suis pas si sûr que lui.
Il faut de la profondeur de banc, donc il fera toujours du bien. Même
si... Non, que toi, en disant que justement, je pense qu'il a quand même besoin de ce numéro 9 parce que quand tu regardes les équipes. Pour gagner la Champions League, il faut quand même ce numéro 9-là, tu vois. Et à mon avis, je pense que dans ton effectif, tu dois quand même avoir un numéro 9 qui va te mettre des buts.
Que Enrique, c'est un dogmatique.
Mais ça, c'est sûr.
Dans sa tête, c'est pas ce profil-là qu'il veut.
Bon, on verra mercredi. Béric nous a annoncé la titularisation de Gonçalo Ramos. L'énorme cote, mercredi.
On verra. Il y a souvent des surprises avec Luis Enrique, donc pourquoi pas.
C'est vrai, ça sera peut-être
la dinguerie.
Gonçalo Ramos, qui n'en est pas une, en fait,
Mais en fait, c'est ça.
Mais dans les
l'image
qu'on en a aujourd'hui, c'est pas fou. On va suivre, bien évidemment, la suite avec Gonçalo Ramos. On va passer à l'Omnisport avec les résultats de vos clubs franciliens du week-end. Le tout résumé par Clément Crecio.
Dans son match de la peur, le Stade français ne s'est pas rassuré. Face à Vannes, dernier du top 14 et concurrent direct à la relégation, Paris s'est incliné 33-28. Les Bretons étaient pourtant réduits à 14 dès la 5e minute, mais les Parisiens ont montré de grosses faiblesses et ont écopé de 3 cartons dont un rouge en fin de match. Paris compte seulement 4 points d'avance sur Vannes au classement. Du côté de la défense, la journée n'a pas été meilleure. Le Racing a sombré à domicile face à Castres, 20-27 score final. Les hommes de Lancaster n'ont plus gagné un top 14 depuis le 2 novembre 2024. Meilleur résultat en basket. En revanche, Paris s'est imposé à domicile face au leader Chaud les 90-77. Avec 15 et 16 points, le trio offensif Ify, Low Shorts a emmené l'équipe de la capitale en prenant les rênes de la rencontre dès le premier quart-temps remporté 24-17. Malgré la révolte de Cholet dans le deuxième quart-temps, Paris a su reprendre la main pour l'emporter. Les deux équipes sont désormais à égalité au classement. En hockey sur glace, les Jokers de Cergy Pontoise sont allés décrocher une victoire à Chamonix, 6-2. Les Franciliens restaient sur 3 défaites et 1 nul face à leurs adversaires. Avec ce succès, les Jokers sortent provisoirement de la zone rouge en attendant le match de Nice, qui pourrait repasser devant en cas de victoire. Sur la piste cendrée de l'hippodrome de Vincennes, Clément Duval-Estaing a remporté pour la deuxième fois consécutive le Grand Prix de l'Amérique avec Idaho de Tillard. Une performance remarquable sur l'une des courses les plus prestigieuses au monde en trot attelé. C'est le sixième cheval à réaliser le doublé au 21e siècle.
Il confirme aujourd'hui. Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à mes trois chroniqueurs, Kevin Macassi, Stéphane Jeanne et Derek Pierre-Louis. C'était un plaisir, messieurs. Merci également à Maxence Venot à l'édition. Je vous rappelle que Cop Paris est disponible en replay, en podcast, ainsi que sur le site web de BFM Paris. Très bonne semaine à tous. On
Salut.
Se retrouve lundi prochain dans Cop Paris. On l'espère, messieurs, toujours en Ligue des Champions.
Ouais, on l'espère.
Allez, prenez soin de vous. Bye bye.
Merci. Ciao.